Place à la revue de presse internationale. Bonjour Adrien Toffolé.
Bonjour.
Alors de la colère et des suspicions dans la presse ce matin au sujet des élections en République démocratique du Congo. Scrutin présidentiel et législatif attendu depuis 2 ans maintenant. À nouveau partiellement reporté, Adrien.
Oui, c'est une petite musique qui revient régulièrement aux oreilles des Congolais, constate la presse ce matin. Il y a d'abord eu un premier motif de report, fichier électoral incomplet, déclaré en septembre 2016 la CENI, la Commission électorale indépendante. En 2017, rebelote, rien n'est prêt, disait-elle. Il faut 1 an de plus, scrutin présidentiel et législatif. Alors, le 23 décembre, cette année, reporté, nous en avions parlé dans cette revue de presse la semaine dernière, reporté encore une fois d'une semaine en raison de problèmes techniques liés à l'incendie d'un dépôt de matériel électoral. Et puis coup de théâtre, hier, 3 circonscriptions électorales, Beni et Butembo au Nord Kivu et celle de Yumbi dans l'ouest du pays ont été temporairement exclues de l'élection. Motif invoqué cette fois, l'épidémie d'Ebola qui continue de sévir et la violence des conflits interethniques dans cette zone. Les élections sont bien maintenues à dimanche, sauf ces 3 régions qui voteront en mars prochain seulement. Plus d'un million d'électeurs sont ainsi zappés, s'indigne le quotidien belge Le Soir, des électeurs dont le bulletin pourrait pourtant être déterminant sur le résultat de la présidentielle qui se jouera en un seul tour et sur le résultat de la législative car la répartition des sièges est basée sur les résultats à l'échelle nationale. Colère dans tout le pays. Pour l'opposition, c'est une manipulation du pouvoir pour truquer le scrutin, peut-on lire sur le site de la BBC Afrique qui cite également ce tweet d'une militante pro-démocratie. Comment peut-on publier les résultats définitifs le 15 janvier pendant que d'autres villes et territoires voteront en mars, on nous prend vraiment pour des cons. Autre coup de colère d'un Congolais vivant dans l'une des régions exclues à retrouver sur Al Jazeera. Trop c'est trop, ils n'ont pas le droit d'utiliser l'épidémie d'Ebola pour nous laisser de côté. Pourtant, ces motifs de report sont bel et bien concrets. Depuis le mois d'août, le virus est hors de contrôle dans cette partie septentrionale du pays. Des équipes médicales sont à pied d'œuvre pour tenter d'éradiquer le fléau. La situation est particulièrement bien détaillée dans un article du New York Times. Un virus d'autant plus difficile à combattre qu'il évolue dans une zone où sévissent des milices meurtrières. Ebola fait peur, mais il n'y a pas que ça. Nous avons peur des Maïmaï, explique un épidémiologiste. Les Maïmaï, ce sont les miliciens. Mais il est d'autant plus difficile à combattre aussi ce virus, car certains politiques s'en servent pour influer sur l'élection. Des candidats diffusent des rumeurs à la population qu'Ebola est une création du gouvernement pour les exterminer ou qu'Ebola est propagé par les étrangers. Difficile alors d'imaginer dans ces conditions des élections se dérouler dans un climat apaisé.
Et sur place, en RDC, la presse heureusement ne relaie pas ces fausses informations, mais elle analyse les conséquences d'un tel scrutin en 2 parties.
Média Congo, par exemple, détaille les scénarios possibles avec une conclusion toujours identique. Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001 et qui ne peut plus être élu, se maintient à la tête du pays, puisque selon la constitution de 2006, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Première hypothèse, la Cour constitutionnelle invalide la présidentielle à cause de l'exclusion des 3 circonscriptions. Énième report de l'élection. Deuxième hypothèse, la Cour constitutionnelle demande le report général des 2 scrutins, justement à cause de l'élection, de l'exclusion des 3 circonscriptions. Et dans ces 2 hypothèses, Joseph Kabila assurerait l'intérim. Troisième hypothèse, le président, en s'appuyant sur la constitution, décrète que la situation d'insécurité ne permet pas la tenue des élections présentement. Il resterait alors au pouvoir au nom de la sécurité publique et de la continuité de l'État, le temps que les violences soient éradiquées, autant dire peut-être jamais.
Et puis la presse ce matin revient aussi beaucoup sur le déplacement surprise de Donald Trump en Irak pour rendre hommage aux troupes sur place, avec un traitement de cette information qui varie en fonction des régions.
Oui, la presse américaine d'abord. On s'étonne d'une telle visite du président américain au moment où le pays vit à l'heure du shutdown des administrations et dans la mesure où, bien qu'il s'agisse d'une tradition pour un commander in chief, l'année dernière, Donald Trump l'avait tout simplement boudé. Que retenir de cette visite éclair de 3 heures en compagnie de sa femme et sans autre membre du gouvernement que John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale. Fox News, comme le New York Times et Bloomberg, rappellent bien entendu le contexte. Le déplacement intervient une semaine après l'annonce du prochain retrait de l'US Army en Syrie. Donald Trump, hier, a réaffirmé que Daesh était quasiment vaincu, petite nuance, par rapport à la semaine dernière, mais la conviction est la même. Mais ce qui est d'abord mis en avant, c'est cette partie du discours de Donald Trump qui n'est pourtant pas la plus intéressante. Nous ne sommes plus des pigeons, les amis, on nous respecte à nouveau en tant que nation. Voilà qui rappelle bien à quoi servent, de façon générale, ces visites aux troupes en poste à l'étranger. Le président lui-même le sait, a retrouvé sur son compte Twitter et relayé par la presse un résumé vidéo de sa visite avec cette musique pour l'accompagner.
Et dans les médias hors États-Unis, cette fois, Adrien, c'est une autre phrase qui retient l'attention.
Oui, Le Monde en France, Der Standard en Autriche, Le Corriere della Sera en Italie, tous titrent ou mettent en avant cette phrase du discours de Donald Trump. Les États-Unis ne peuvent pas continuer à être le gendarme du monde. Voilà qui confirme un changement de ton et de position radical dans l'histoire de la politique étrangère et de défense des États-Unis, note la presse européenne. Quant à la presse au Moyen-Orient, elle a d'autres préoccupations, car cette visite surprise de Donald Trump s'est faite en tout petit comité et seulement 3 heures. Première visite sur un terrain d'opération, première visite sur le sol irakien même, sans rencontrer son homologue, précise Al Jazeera. On apprend qu'un rendez-vous avec le premier ministre Adel Abdul Mahdi était prévu, transformé à la dernière minute en coup de téléphone. La diplomatie en prend un coup. De nombreux politiques et membres du Parlement en Irak parlent du déplacement américain comme d'une violation de la souveraineté irakienne. Quant au journal israélien Haaretz, s'il s'inquiète d'une autre phrase prononcée par Donald Trump, on donne à Israël 4,5 milliards de dollars tous les ans, tout ira bien pour eux. Pas de quoi rassurer le pays qui a déjà très mal pris l'annonce du retrait de Syrie.
Merci Adrien Toffoli, une revue de presse internationale à retrouver sur le site de France Culture.